Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, Planète Terre, Sylvain Kahn.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Terre, l'émission de France Culture qui décrypte les enjeux globaux de notre vie sur Terre. Comme chaque mercredi pour ce rendez-vous scientifique, nous sommes ensemble de 14h à 14h56. L'émission d'aujourd'hui s'inscrit dans une semaine que France Culture consacre au nucléaire. En effet, c'est les 70 ans du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et donc, toute la semaine, les émissions de Culture Science sont en écho avec cette commémoration.
C'est un combat contre la dose, incolore, inodore, invisible, elle est partout autour de toi. Tu respires mal, ton cœur s'emballe à 100 à l'heure.
Tu peux expliquer ça aux gamins ? Ça fait quoi la dose ?
Ça fait beaucoup.
C'est simple, là, pour nous, t'es en sursis. Si on relève encore trop de tout sur ton dosimètre, on t'arrête pour la saison.
Vous avez peut-être reconnu les voix d'Olivier Gourmet et de Tahar Rahim. C'était les acteurs de ce film Grand Central de Rebecca Zlotowski, qui est sorti en 2013. Il y avait également Léa Seydoux et qui nous fait pénétrer la vie sociale des travailleurs des centrales. Alors, dans le cadre de cette semaine qui est en écho donc au 70e anniversaire du Commissariat à l'énergie atomique, Planète Terre, pour sa part, vous convie à une évocation de la circulation des objets et des matières du nucléaire à travers le monde et à différentes échelles spatiales. L'uranium qui alimente les centrales nucléaires d'Europe après y avoir été enrichi est extrait au Niger ou au Kazakhstan. Comment arrive-t-il d'un endroit à l'autre? Le MOX, ce combustible très radioactif issu d'un mélange d'uranium et de plutonium, est, on le sait, fabriqué dans très très peu de pays, notamment en France, avant d'être exporté. Cela a longtemps été le cas vers le Japon. Dire encore que seul un tout petit nombre d'industriels fabriquent des centrales qui sont cependant en service dans une trentaine de pays dans le monde. Et puis, bien entendu, comment ne pas évoquer ici les déchets dont la circulation et la localisation sont nimbés de secrets. Alors, cartographier et tracer les routes du nucléaire permet de comprendre qui et comment fixe les règles de circulation et d'échange de ces biens si sensibles, ainsi que le rôle relatif des acteurs, société civile, État, filières, des technologies, de la logistique. Bref, nucléaire entre territoires connus et routes cachées, c'est le sujet de Planète Terre cette semaine. Élément de réponse avec deux géographes, Romain Garcier, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure de Lyon, et Teva Meyer, doctorant à l'Institut français de géopolitique de Paris 8 et enseignant-chercheur à l'Université de Haute-Alsace de Mulhouse. Bonjour à tous deux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous donc pour cette semaine un peu particulière dans les émissions de sciences de France Culture. Et la première question que j'ai envie de vous poser consacre peut-être un peu votre objet de recherche et votre méthode, parce que j'ai le sentiment que le nucléaire est très souvent présenté comme un objet localisé. Hein. Et dans les médias en particulier, sur France Culture comme ailleurs, on se focalise sur les lieux du nucléaire. On peut penser à Fessenheim, qui est aujourd'hui un objet de débat, pour prendre un exemple français, ou à Bure, en raison de l'enfouissement des déchets, ou bien entendu à Fukushima ou à Tchernobyl. C'est toujours des lieux. Hein. Et vous, vous avez entre autres choisi de vous intéresser aux liaisons entre ces lieux, ou bien à une analyse cartographique comparée de ces différents lieux. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser est toute bête, c'est pourquoi cette démarche? Qu'est-ce qu'à travers cette démarche, vous cherchez à comprendre et à mettre à jour s'agissant du nucléaire? Romain Garcier.
Effectivement, quand on parle du nucléaire, on parle souvent de sites nucléaires. Il se trouve que déplacer un petit peu la focale sur ce qui est amené à circuler dans le nucléaire, à savoir des choses, bien sûr, de l'uranium, des technologies, mais aussi de l'argent, car le nucléaire fait circuler énormément d'argent dans les territoires, est une manière de s'extraire du caractère extrêmement normé, cadré des analyses qu'on est amené à faire sur le nucléaire en tant que chercheur. Et d'une certaine manière, c'est insister sur les circulations, c'est une manière aussi de sortir d'une sorte de cadrage des débats qu'on pourrait arriver à, auxquels on est souvent exposé en tant que chercheur.
Mais par cadrage, Romain Garcier, est-ce que vous voulez dire que il y a comme une norme, y compris dans le milieu scientifique, qui, selon vous, enferme un peu le débat, enfin le débat à la recherche en l'occurrence, sur le nucléaire? Ou est-ce que vous pensez au cadrage qui serait, porté, voire imposé par la sphère publique, ou bien par la sphère politique, ou bien par les industriels du secteur?
Alors j'aurais tendance à répondre les deux, mais les cadrages ne sont pas de même nature. Quand on fait des sciences sociales sur le nucléaire, la majeure partie de ce qui a été fait antérieurement et donc des attentes liées à ces travaux porte sur ce qu'on pourrait appeler très rapidement une forme de politique du nucléaire. C'est-à-dire comment est-ce que le nucléaire s'est érigé comme objet politique, alors avec des déclinaisons extrêmement diverses selon les disciplines. Mais l'intérêt de travailler sur les circulations, c'est que ça permet de réinterroger non plus la politique, mais les matières du nucléaire. Et de ce fait, encore une fois, on décentre le regard. L'autre aspect, et vous avez tout à fait raison de le préciser, c'est que dès qu'on intervient comme chercheur en sciences sociales sur des questions nucléaires, la première question qu'on nous pose, que ce soit d'ailleurs dans tous les dimensions du spectre des acteurs sociaux, c'est êtes-vous pour ou contre ? Et d'une certaine manière, cet antagonisme ou ces imputations, elles se concentrent souvent autour de sites particuliers. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce qui se passe sur ce site ? Et donc, délocaliser en quelque sorte la réflexion en insistant sur les circulations est une manière d'échapper à cette espèce de pince.
Alors Théva Meyer, votre sentiment, votre réponse donc sur ce sujet, pourquoi vous aussi vous intéressez non seulement aux circulations mais peut-être aussi aux espaces, et puis surtout pourquoi comparer différents lieux, alors que, comme vient de le dire Romain Garcier, c'est vrai que bien souvent, le débat, en tout cas tel que la sphère médiatique s'en fait l'écho, dans la sphère publique, c'est un débat qui est focalisé sur des sites.
Alors en fait, si on reprend la thématique que vous avez abordée, les sites qu'on connaît, en réalité on connaît très peu les dynamiques géographiques qui animent les sites nucléaires. Les géographes sont très peu intéressés à cette question-là, sont plutôt des anthropologues, des ethnologues, je pense à Françoise Onabend ou à Françoise Lafaye, qui ont travaillé sur les dynamiques géographiques qui animent ces sites. Et inversement, les flux qui pourraient être cachés, eh ben, ça dépend des pays. Dans certains pays, on a des accès aux sources, beaucoup plus facilement. En France, par exemple, on a un accès assez facile à certaines sources, savoir de quel pays provient l'uranium, de quel pays il a été enrichi, à quel pays il a été converti. Dans d'autres pays, je prends l'exemple de la Suède que je connais le mieux, l'accès à ces sources-là est quasiment impossible car il n'y a pas de cadre législatif qui le permet. Donc moi, je me suis surtout intéressé en premier lieu au territoire du nucléaire parce que justement, nous ne connaissons pas les dynamiques qui les animent, ou très peu.
C'est-à-dire que moi, quand j'ai dit dans le titre de l'émission que dans le nucléaire, les territoires étaient connus et les routes cachées, j'étais encore trop optimiste alors.
Probablement. Les territoires, on connaît la localisation des territoires. On connaît très mal la manière dont, dans différents pays, le nucléaire, l'arrivée sur le nucléaire, va modifier ces dynamiques géographiques. Et quand on étudie, on se rend compte que ces dynamiques sont totalement différentes d'un pays à l'autre. Et elles vont dépendre de plein de choses, de la stratégie d'acteurs, mais aussi de caractéristiques préexistantes des territoires.
Est-ce que ça veut dire l'un et l'autre que vous considérez que l'approche scientifique, qui est le plus souvent celle qui est convoquée, à la fois dans les débats publics ou dans l'expertise, là encore une fois, tous mes collègues du lundi, du mardi, du jeudi et du vendredi font eux aussi des émissions, leurs émissions de culture science consacrées au nucléaire. Ils invitent plutôt des scientifiques au sens des sciences dures. Vous, en tant que géographe, est-ce que vous êtes amené à travailler avec les scientifiques, au sens les physiciens par exemple, et est-ce que vous êtes aussi amené du coup à avoir un regard et peut-être une sorte de discours un peu anthropologique peut-être sur les scientifiques qui travaillent sur le nucléaire? Est-ce que ça vous permet de voir la science autrement? Et si j'ai envie de vous poser cette question, c'est bien parce que nous sommes en écho à la commémoration du 70e anniversaire d'une grande institution, le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, qui a une activité de recherche très très importante, hein, et pas seulement dans les sciences, on va dire, de la physique nucléaire. Romain Garcier.
La relation avec des physiciens ou des écotoxicologues ou des gens qui vont intervenir sur les aspects plus physiques ou environnementaux au sens large du nucléaire, c'est véritablement quelque chose qui est très important pour des spécialistes de sciences sociales, parce que comme un certain nombre d'autres objets, le nucléaire suppose une très forte acculturation. C'est-à-dire que c'est un objet qui est tellement complexe, à la fois d'un point de vue physique, technologique, mais aussi parce qu'il met en jeu des échelles de temps, des matériaux qui sont complètement en dehors de l'expérience commune, qu'il est extrêmement important de ne pas s'illusionner sur cet objet-là et donc d'en comprendre les ressorts. La deuxième chose qui est importante, à mon sens, pour répondre à votre question, c'est que dans le nucléaire, aujourd'hui, on est en permanence en train de manipuler des ordres de grandeur. On va se demander, dans le cadre d'un débat public, combien le nucléaire émet de CO2. On va se demander, dans le cadre d'un débat public, combien le nucléaire va coûter. Et donc, pour répondre à ces questions, il est indispensable de créer des dialogues avec d'autres disciplines. Et puis, il est certain aussi que le nucléaire amène à créer des relations très singulières entre la science et le pouvoir. Et c'est là qu'on touche du doigt toute l'ambiguïté qu'il y a à intervenir comme chercheur indépendant sur des questions qui ont du mal à s'ériger comme des questions indépendantes.
Et elles ont du mal à s'ériger comme des questions indépendantes dans les différents pays, Teva Meyer, qui ont constitué vos terrains de recherche. Ce n'est pas que en France que cette difficulté existe.
Absolument. Alors, ça dépend des structures des différents pays. Je prends un exemple assez simple qui est l'exemple de l'Allemagne. En Allemagne, très tôt dans l'histoire du nucléaire allemand, il y a eu des possibilités, des opportunités pour des chercheurs indépendants, physiciens, de travailler pour des instituts de recherche, des think tanks indépendants, et donc de créer une contre-expertise beaucoup plus tôt qu'en France. Le travail avec des chercheurs, entre guillemets, de sciences dures est important pour chercheurs de sciences humaines aussi, parce que les chercheurs de sciences dures sont des acteurs des politiques nucléaires. Certains d'entre eux vont par exemple être des acteurs engagés pour ou contre l'énergie atomique. Là, je pense particulièrement aux travaux qui ont été faits par une sociologue, Céline Topsou, qui a fait de très très bons travaux et de très grands travaux sur les acteurs physiciens engagés contre le nucléaire, Monique Senet par exemple. Donc ce sont des acteurs de part et d'autre, et donc des acteurs qui participent à la création de ces flux et de ces sites que nous étudions.
Alors, bon, ceci étant dit, est-ce que vous accepteriez qu'on brosse pour les auditeurs un tableau, disons, de ce que j'appelle, faute de mieux, et vous pouvez vraiment me reprendre sur ce mot, un peu une géographie du nucléaire dans le monde. Parce qu'à partir du moment où on dit qu'il y a des sites et des lieux, et puis que vous nous expliquez l'un et l'autre que vous vous intéressez d'une part aux dynamiques territoriales, d'autre part aux circulations, évidemment, bon, bah, moi, je vous dis, ok, alors dans ces cas-là, est-ce que on peut dresser une espèce de cartographie, un planisphère du nucléaire dans le monde. Est-ce que ça vous paraît acceptable comme démarche ?
On peut essayer, c'est toujours le problème. On va essayer de faire un planisphère des sites, peut-être, un planisphère des flux un peu plus tard. Alors, vous l'avez dit au début, on a une trentaine de pays qui produisent de l'énergie nucléaire actuellement. On a 391 réacteurs atomiques qui ont produit l'électricité l'année dernière. Une centaine d'entre eux se trouvent aux États-Unis. Après, nous avons la France avec 58 réacteurs, et si à ces deux pays-là vous ajoutez encore la Chine, la Corée et la Russie, vous avez 70% de la production électronucléaire au monde.
Donc là, vous avez enlevé le Japon, c'est-à-dire on considère que...
En tout cas, l'année dernière, le nucléaire japonais n'a rien produit.
Ah, d'accord.
Donc c'est en prenant cette... Il faut savoir aussi que la production de données, de base de données, savoir quel réacteur est en construction, quel réacteur est en activité, c'est un enjeu politique. On a une base de données qui s'appelle la PRIS, qui est faite par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et puis de l'autre côté, on a un rapport annuel qui est fait entre autres par un chercheur qui s'appelle Mike Schneider, qui est un chercheur indépendant, qui produit une autre base de données. Et entre autres, il y a la question de ces réacteurs qui ne sont pas considérés par l'AEIA comme arrêtés.
Alors, AEIA, l'Agence internationale de l'énergie atomique,
qui ne sont pas considérés comme arrêtés, mais qui pourtant ne produisent pas d'électricité depuis longtemps. Donc même la création de ce planisphère pose déjà problème politiquement. Donc, nous avons ça. Et à la fin, si on veut faire une analyse dynamique, on a une soixantaine de réacteurs en construction. La plupart en Chine, 26 réacteurs en construction en Chine, 9 en Inde, 9 en Russie. Et après, à chaque fois, un par pays, en France par exemple, le EPR de Penly, en Finlande, bientôt un deuxième en Finlande d'ailleurs. Donc là, on a à peu près une géographie de la production d'énergie atomique.
Alors, ce qu'il faut dire ensuite, c'est que toute cette géographie que Teva Meyer vient de rappeler, elle est assise sur quelque chose qu'on appelle le cycle du combustible. Et le cycle du combustible, c'est quelque chose qui va associer l'extraction d'uranium, qui se fait donc dans un nombre relativement restreint de pays d'ailleurs, et toutes les étapes ultérieures qui visent à transformer l'uranium en combustible nucléaire. Et donc, dans ce cycle, vous allez avoir un certain nombre d'étapes, dont la plus connue et la plus controversée, puisqu'on en a beaucoup parlé, c'est celle de l'enrichissement. L'enrichissement, c'est une intervention physique sur l'uranium, non pas chimique, mais physique, qui consiste en fait à augmenter la proportion des isotopes de l'uranium pour l'amener à une concentration suffisante pour que l'uranium puisse être utilisé dans les centrales atomiques. Et bien sûr, tout l'enjeu, et c'est ça tout le paradoxe et toutes les tensions qui animent le secteur nucléaire, c'est qu'il y a des formes de percolation permanente entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Donc cette charge politique du nucléaire, elle est aussi liée à ces dangers. Ensuite, après cette phase de fabrication du combustible, l'utilisation dans les centrales nucléaires du combustible à l'uranium, vient la question des déchets. Et donc le cycle du combustible nucléaire, c'est ça, c'est l'extraction de l'uranium, ses transformations, le passage par la centrale et ensuite la production de déchets.
Sachant que une partie des déchets est lui-même ou peut-être lui-même réutilisé, à nouveau réinjecté dans le cycle, on peut dire ça?
Alors c'est une question assez épineuse. Pourquoi? Parce que si on s'intéresse véritablement à la production des déchets dans l'industrie nucléaire, une partie des déchets, assez petite d'ailleurs, provient des déchets du combustible nucléaire, donc ce qu'on ne peut plus brûler et qui est considéré comme un déchet, qui va être retraité. Mais dans l'industrie nucléaire, il y a une production de déchets qui ne se limite pas à ces déchets qui sont en petite quantité, mais très radioactif. Et vous avez une production très conséquente de déchets dans toute l'industrie. Donc une petite partie peut être retraitée pour être remise ensuite dans le cycle, mais ce n'est pas la totalité des déchets.
Alors, est-ce que, si vous le voulez bien, vous pouvez nous donner l'un ou l'autre un tout petit peu plus de détails ou de matérialité sur les différentes étapes de ce cycle, ne serait-ce dans un premier temps que en termes de localisation. Vous avez dit, Romain Garcier, mais peut-être Teva Meyer, voulez-vous nous l'expliquer, les pays où se trouve l'extraction du minerai d'uranium sont relativement peu nombreux.
Alors si, déjà, on va peut-être pouvoir additionner à ça une autre complexité, c'est-à-dire que sur ces 391 réacteurs qui existent, en fait, on peut les classer très sommairement en deux types de réacteurs. Des réacteurs qui vont utiliser de l'uranium enrichi, donc ce que Romain Garcier vient de nous expliquer, et des réacteurs qui vont utiliser de l'uranium dit naturel, qui subit quand même aussi des modifications chimiques, mais dit naturel.
Alors, ces réacteurs, sauf erreur de ma part, ne sont-ils pas moins nombreux?
Absolument. L'immense majorité sont des réacteurs à uranium enrichi.
Et quand vous évoquiez tout à l'heure, Teva Meyer, un nombre assez conséquent de réacteurs en construction, là, il s'agit là aussi plutôt de réacteurs qui vont utiliser de l'uranium enrichi.
Absolument. Le pays qui a le plus développé les réacteurs à uranium naturel, c'est le Canada, avec un réacteur qui s'appelle Candu, et qui est aujourd'hui aussi en développement en Inde, pour une raison qui est que les réacteurs Candu, si vous les modifiez un tout petit peu, vous pouvez utiliser un autre type de combustible qui est le thorium. Alors, c'est pas encore en réalisation, mais l'Inde est très intéressée par cette possibilité parce que l'Inde a de très gros gisements de thorium.
Les mines d'uranium ou les pays qui produisent de l'uranium ne sont pas forcément ceux auxquels on pense spontanément, en France bien entendu, dès qu'on fait une émission comme on essaie de le faire maintenant sur l'énergie nucléaire, on pense tout de suite au Niger, mais en fait il n'y a pas que le Niger.
Vraiment pas. Depuis quelques années maintenant, le premier producteur d'uranium au monde est le Kazakhstan. Et au Kazakhstan, l'extraction se fait plutôt dans l'ouest du pays avec des techniques qui sont des qu'on appelle de in situ leaching, c'est-à-dire que il y a pas de mine à ciel ouvert, si vous voulez. On pompe de l'uranium qu'on envoie des liquides dans le sous-sol et ensuite on retire un liquide qui est chargé en uranium. Donc on a des techniques minières qui sont très singulières et le Kazakhstan s'est imposé en quelques années comme un acteur majeur de la production. Suivent des pays plus classiques comme le Canada, le Niger, l'Australie, etc., qui sont des acteurs plus anciens.
Alors, vous dites que le Kazakhstan s'est imposé en quelques années. Faut-il comprendre que du temps de l'Union soviétique, qui était pourtant un acteur très important dans le nucléaire, à la fois militaire et civil, l'uranium utilisé en URSS ne venait pas du Kazakhstan ?
Pas uniquement. Une partie de l'uranium, le premier état, si on peut dire, où ça s'est développé, était, si ma mémoire est bonne, le Tadjikistan. Où il y avait et où il y a d'ailleurs des problèmes d'après-mine absolument considérables. Donc le Kazakhstan avait
problème d'environnement donc.
Ah oui, absolument.
Pollution.
Absolument, absolument. Et le Kazakhstan a une tradition, si on peut dire, nucléaire, dans la mesure où il y a eu des usines historiques de fabrication de combustible nucléaire qui étaient situées au Kazakhstan, et c'est surtout au Kazakhstan que vous aviez le principal site de test de bombes atomiques soviétiques, qui se trouve dans la steppe ou de la vers Kourtchatov. Moi, j'y suis allé sur ce site, et c'est une sorte d'immensité complètement désolée. À côté de cette ville qui, depuis la fin de l'Union soviétique, s'est retrouvée en très grande difficulté. Donc c'était une ville secrète au milieu de la steppe.
Je vous propose, si vous voulez bien, pour qu'on reste un tout petit peu sur cette question du minerai et de son extraction, qu'on écoute l'extrait d'un reportage qui avait été diffusé dans l'émission Grand Angle sur TV5 Monde le 15 mars 2014. Vous allez le voir, bien entendu, ça parle du Niger. De manière sans doute assez classique, mais c'est important, me semble-t-il, qu'on en parle, ça évoque également la relation nord-sud et peut-être une relation centre-périphérie.
Pour produire de l'électricité, les centrales nucléaires françaises ont besoin de combustible fabriqué à base d'uranium. Un tiers de cet uranium est extrait dans les mines du Niger. Depuis 50 ans, ces gisements sont exploités par la société française Areva. Le sous-sol du Niger figure parmi les plus riches au monde. Mais paradoxalement, la population est l'une des plus pauvres. Famine, sécheresse et retard de développement, moins d'un foyer sur 10 à l'électricité. Le nouveau président nigérien, Mahamadou Issoufou, est bien décidé à lutter contre cette injustice. C'est l'une de ses promesses électorales. Cette semaine, le président a reçu Luc Oursel, le PDG d'Areva, dans le cadre de la renégociation du contrat. Le Niger demande la fin du régime d'exception octroyé à la France et l'application stricte du code minier. Jusqu'à présent, Areva payait 5,5% de redevances minières. Le président nigérien réclame 12%. L'État français, actionnaire à plus de 80% de Areva, soutient officiellement cette demande qu'il considère comme légitime. Mais dans les faits, les négociations sont toujours bloquées. Dans les rues de Niamey, la colère gronde.
France Culture, Planète Terre, Sylvain Kahn.
Théva Meyer, alors est-ce qu'on est dans une configuration qu'on pourrait appeler postcoloniale, voire néocoloniale, classique et différente du Kazakhstan ?
Alors, la thématique du Niger est très intéressante pour la France parce que elle prend une telle place aussi médiatique parce que des mouvements antinucléaires l'ont utilisée. C'est-à-dire que le Niger n'est pas le premier pays d'importation d'uranium pour la France, et pourtant c'est celui qui, sur la place médiatique, est le plus important. Si on revient à ce que la chose dont on parlait auparavant, il y a deux points sur lesquels je voulais revenir. Le premier, c'est l'URSS importait aussi énormément d'uranium d'anciennes RDA, hein, où les mines de Vismut avaient été saisies comme réparation de guerre. Et le deuxième point, le Kazakhstan aujourd'hui prend une place très importante dans la géographie du nucléaire, aussi car depuis cette semaine, une banque d'uranium enrichi a été ouverte sous le contrôle de l'Agence nationale de l'énergie atomique dans l'est du Kazakhstan. Et cette banque, alors qui est très petite, hein, parce que on a l'équivalent d'assez d'uranium pour recharger trois réacteurs. Donc c'est pas beaucoup, mais en tout cas, elle part d'une initiative qui souhaite diminuer les risques de prolifération en proposant d'autres solutions au pays que de construire eux-mêmes des usines d'enrichissement.
Alors attendez, qu'on comprenne bien, ça veut dire que sous un régime international, le Kazakhstan a accepté que sur son territoire, une partie de l'uranium qui est extrait de ces mines soit, disons, stockée par un site de stockage international ?
Alors, il y a eu très tôt dans l'histoire du nucléaire des tentatives d'internationalisation du cycle, dès 1953, en réalité. Et il y a eu trois propositions. La première, c'est soit de mettre toutes les infrastructures d'enrichissement ou de conversion d'uranium sous statut d'extraterritorialité et sous protection de l'AEIA. D'ailleurs, l'Allemagne a refait cette proposition en 2003. Il y a une deuxième solution qui a été proposée, qui est celle de faire des banques d'uranium, dans lesquelles des pays en difficulté d'approvisionnement pourraient aller se servir. Et la troisième possibilité qui a été de faire des assurances de marché, assez bêtement, où un pays, s'il advenait être en rupture d'approvisionnement, pourrait avoir un approvisionnement autre part. Donc ça a été une problématique très, très, très tôt dans l'histoire du nucléaire.
Et quel a été, enfin disons, l'intérêt du Kazakhstan ou du gouvernement kazakh à accepter alors, ce qui vient d'être
C'est une bonne question, mais à ça je répondrai. Il y a une publicité pour le Kazakhstan qui vient de sortir et qui passe à la télévision, entre autres sur Euronews, et qui est très intéressante, je trouve, parce que elle présente le Kazakhstan comme le garant de la sécurité mondiale atomique. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte, mais il y a un des facteurs qui est une tentative de changer l'image et la représentation de ce pays d'Asie centrale.
Qui est, on va dire, au minimum, un régime autoritaire.
Absolument, absolument. Et je pense que cette ouverture de banque d'uranium s'inscrit dans une stratégie internationale de changement de l'image du Kazakhstan sur la scène.
Est-ce que vous pensez qu'elle s'inscrirait aussi dans un cadre qu'on pourrait appeler plus classiquement géopolitique, visant à, en l'occurrence, s'affranchir un peu de la tutelle ombrageuse du grand voisin russe, Romain Garcier?
Je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment raisonner en ces termes, parce que le Kazakhstan a une relation extrêmement ambiguë avec la Russie, bien sûr. Il y a une relation de proximité quand même géopolitique. Il y a une partie significative de la population kazakh qui est ethniquement russe quand même. Donc on peut pas comme ça les affronter. En revanche, ce qui est intéressant pour le Kazakhstan, c'est que le Kazakhstan cherche à se réinventer dans le cadre de son économie nucléaire comme une puissance scientifique également. Et donc, comme le disait Teva Meyer, il a une stratégie assez délibérée de monter en compétence du point de vue des technologies nucléaires et d'asseoir son influence sur son caractère de pacificateur du cycle nucléaire. Pourquoi ? Parce que, on le voit bien avec l'affaire iranienne, ce qui compte aujourd'hui dans les transactions sur le développement du nucléaire, c'est d'où va venir l'uranium enrichi. Est-ce que les pays doivent développer leur propre uranium enrichi avec les risques de prolifération que ça peut comporter ? Donc, en ayant cette position très habile sur la scène internationale, le Kazakhstan se pose, en entremetteur de bonne volonté pour un développement pacifique de l'énergie nucléaire dans le cadre du changement climatique, etc., etc.
Alors, moi, ce qui me paraît très intéressant dans ce que vous venez de nous expliquer, c'est qu'il y a finalement une échelle qu'on pourrait qualifier non seulement de politique, mais surtout mondiale. Et, Teva Meyer, vous le rappeliez tout à l'heure, on est pourtant habitué, s'agissant du débat public sur le nucléaire, à raisonner, disons, à une échelle très locale. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre ces deux ordres de réalité, ou est-ce que on est simplement face à deux phénomènes, tout aussi importants l'un que l'autre, mais qui cohabitent ou qui coexistent sans lien entre eux ?
Sur Romain Garcia, ce qu'on pourrait appeler les jeux d'échelle, finalement, pour reprendre un terme de géographie un peu scolastique. Dans le nucléaire, ils sont extrêmement compliqués, parce que vous avez à la fois des régimes de contrôle des activités nucléaires qui ont été développés relativement précocement et qui sont des régimes très bien installés. Je pense en particulier au traité de non-prolifération qui date de 68, rentré en vigueur en 70. Et ce traité de non-prolifération, il fixe un certain nombre de règles sur la circulation des objets nucléaires, des technologies nucléaires, du combustible, etc.
Ça vous paraît respecter ce TNP ?
Le TNP, de manière globale, il y a eu, à ma connaissance, deux manquements d'importance au TNP. Le premier, c'est le cas de l'Inde, qui, alors qu'elle était signataire du TNP, a développé, à partir de sa technologie canadienne, Candu, une bombe au plutonium, provoquant d'ailleurs une crise du système et une refonte du système de contrôle. Et puis ensuite, c'est le cas de la Corée du Nord. Mais sinon, on le voit avec la question des inspections qui sont liées au TNP. Il me semble qu'il y a un régime multilatéral de contrôle des activités nucléaires qui n'a pas été récemment pris en défaut.
Et donc, en ce sens, vous estimez que l'accord, qui n'est pas encore ratifié, rappelons-le, mais qui a été signé entre l'Iran, les États-Unis et quatre autres puissances, cet accord vous paraît justement s'inscrire dans ce qui vous permet de dire que le TNP finalement fonctionne.
Il me semble, au sens où, même si l'Iran a pu développer avant la signature de ces accords, a pu importer des technologies nucléaires, puisque il y a
par
eu
le fameux réseau,
par les fameux réseaux,
le fameux réseau Khan du Pakistan.
Absolument. Mais la problématique qui se pose, c'est qu'on voit quand même qu'il y a eu un contrôle de ces choses, au sens où ça a été identifié à un moment, etc. Enfin, c'est pas quelque chose qui me paraît complètement critique, mais.
Théva Meyer.
Pour revenir sur cette idée de jeu d'échelle, je pense qu'il faut introduire quelque chose quand on parle de géographie du nucléaire, c'est que l'énergie atomique, dès son commencement, a été pensée comme une forme déterritorialisée d'énergie. C'est-à-dire que l'énergie nucléaire devait se passer des ressources naturelles, in fine. Tout d'abord parce que l'uranium, grâce à sa densité énergétique, on peut utiliser de très petites quantités d'uranium, donc c'est facilement transportable, en tout cas on le pensait comme ça, et que in fine, on pensait, avec l'utilisation des surgénérateurs, ne plus avoir besoin d'avoir de l'uranium directement tiré du sol. Donc on a cette problématique, cette tension quasi permanente quand on étudie l'énergie atomique, entre ce projet qui est toujours un projet déterritorialisé, c'est-à-dire espérer de faire des centrales nucléaires qui sont hors sol, alors qu'en la réalité est tout à fait différente, et ces dynamiques géographiques dont le TNP fait parfois partie réellement intrinsèque, qui existent encore aujourd'hui.
Parce que quand on vous entend évoquer, effectivement, faut-il parler d'une vision, d'une représentation ou d'une illusion que le nucléaire serait une énergie hors sol, évidemment, on est très surpris puisque il y a sur de nombreux sites des manifestations ou des contestations, en tout cas des points de cristallisation. Et vous, Théva Meyer, vous avez en particulier cherché à comparer la manière dont, alors en l'occurrence, les centrales nucléaires pouvaient ou ne pas faire territoire dans un certain nombre de communes, en particulier en Allemagne, en France et en Suède. À quelle conclusion principale êtes-vous arrivé, justement, sur ce côté très territorialisé des centrales nucléaires ?
Alors, trois points. Une centrale nucléaire va modifier son territoire selon donc trois axes. Le premier, c'est dans quel territoire cette centrale nucléaire va être implantée. Alors, si on regarde des terrains que je connais le mieux, la France, l'Allemagne et la Suède, en France, on va installer les centrales nucléaires principalement dans des territoires ruraux. C'est un rapport, le rapport Ornano 1974, qui va le proposer, intégration dans les territoires ruraux, avec un objectif qui est d'éviter les conflits. Parce qu'on pensait que les centres urbains étaient des nids à conflits. En Allemagne, totalement différent, on a des centrales nucléaires qui se trouvent dans des zones d'agglomération très très peuplées. Je pense aux centrales nucléaires du Baden-Württemberg, Philippsbourg, ou bien Neckarwerksheim, ou bien aux centrales nucléaires qui se trouvaient à côté d'Hambourg. Donc c'est un premier point. Le deuxième point, c'est quel acteur finalement, quel est l'opérateur de centrales nucléaires. En fonction des acteurs, on va avoir des stratégies d'implantation qui sont totalement différentes. En France, un acteur unique, EDF, dont les stratégies sont concomitantes à celles de l'État, pour l'opération extra-nucléaire en tout cas, et qui va avoir des réelles stratégies d'une intelligence géographique d'intégration de ces activités. En Allemagne, c'est une situation totalement différente, puisqu'aujourd'hui, on a 4 opérateurs sur le nucléaire, mais au début, on en avait beaucoup plus, qui ont des stratégies totalement différentes. Et par exemple, je vais prendre un point qui est toujours amusant que j'explique à mes étudiants, c'est une des entreprises, ENBW, donc, qui s'occupe des centrales nucléaires dans le Bade-Wurtemberg. ENBW, elle appartient à 2 groupes. Elle appartient à un groupe, on va dire, un syndicat intercommunal de communes du sud de l'Allemagne riches qui sont gérées par la CDU. Et pour 46%, elle appartient
au CDU, donc le parti conservateur de Mme Merkel,
absolument,
qui est actuellement au pouvoir.
Et pour 50%, pour 46,7%, ENBW appartient au LEN du Bade-Wurtemberg, qui depuis 2011 est géré par les Verts. Donc les Verts ont 50% des centrales nucléaires du Bade-Wurtemberg. Donc on a des stratégies qui sont totalement différentes d'implantation. Et le dernier point auquel je voulais venir, c'est effectivement ce qui a été abordé rapidement avant par Romain Garcier, qui est l'argent, les flux monétaires du nucléaire, qui sont par des, on va dire, des hasards de fiscalité locale, totalement différentes entre la France et l'Allemagne et la Suède, avec en France des montants d'argent en dizaines de millions d'euros qui vont irriguer ces territoires-là, qui vont permettre d'avoir des stratégies d'aménagement du territoire totalement différentes.
Faut-il comprendre que l'État et EDF achètent l'acceptation de l'implantation du nucléaire sur certaines communes ?
Alors, non. Je pense que c'est difficile de dire ça. Ce que je dirais, par contre, c'est que on a eu une situation particulière qui est celle de la création de taxes, la taxe professionnelle, par exemple, qui a amené beaucoup d'argent sur le territoire. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que donc la taxe professionnelle a été arrêtée en 2010. Mais on a exactement les mêmes montants d'argent aujourd'hui dans les communes du nucléaire. Pourquoi ? Parce que les élus du nucléaire, les élus des communes du nucléaire, nous ont fait un conflit, se sont battus pour qu'une nouvelle taxe soit créée, qui leur apporte exactement le même montant d'argent.
Et là, ça a marché. Tandis qu'en Suède, c'est très différent.
En Suède, c'est absolument différent, puisque les communes ne reçoivent pas d'argent direct. Il n'y a pas de taxe professionnelle. Les seules recettes que les communes ont en Suède, c'est l'impôt sur le revenu. On va prendre ça rapidement. C'est l'impôt sur le revenu. Donc, il y a très peu d'influence sur les flux d'argent entre les centrales nucléaires et les communes directeurs, mis à part par le revenu des emplois du nucléaire, qui néanmoins est plus important en moyenne que les autres habitants des communes.
Et est-ce que ça joue sur le degré d'acceptation ou d'intolérance des populations de ces territoires au nucléaire ?
En tout cas, ce que moi j'ai pu apercevoir en France et que j'ai pas pu apercevoir en Allemagne ou en Suède, c'est qu'en France, on a la création, Fessenheim en est l'exemple le plus probant, d'associations de défense de la centrale nucléaire qui va reprendre, entre autres choses, comme argument, cet argent qui va permettre de faire des investissements de confort pour certains, mais aussi des investissements d'attractivité dans ces territoires-là, qui pour certains étaient en déperdition. Je prends le cas de Schul dans les Ardennes, qui était un territoire en déperdition jusqu'au moment où la centrale nucléaire...
Un territoire frontalier, d'ailleurs.
Un territoire frontalier, absolument. Qui a permis donc de ramener des populations. Donc moi, en tout cas, c'est ce que mes études sur ces différents terrains ont pu montrer. On n'a pas d'association de défense de l'énergie atomique, en tout cas autour de la centrale nucléaire, en Allemagne. Ça n'existe pas.
Et pourtant, comme on va l'entendre à l'instant, on a plutôt l'habitude, en tous les cas dans le débat franco-français, d'entendre, s'agissant des associations, des ONG, la voix des anti-nucléaires.
Voici la cuve de l'EPR. Elle renferme le réacteur nucléaire. Une pièce maîtresse de la centrale, mais qui, d'après l'autorité de sûreté nucléaire, présente de très sérieuses anomalies. À en croire la SN, l'alliage d'acier au sommet et à la base ne serait pas assez résistant. Si le réacteur chauffait trop, la cuve pourrait se fissurer et entraîner des fuites radioactives. L'ASN veut en savoir plus avant d'autoriser ou non la mise en service de cette cuve. EDF et Areva, les constructeurs de la centrale, refusent de s'exprimer autrement que par ce communiqué.
Les équipes d'EDF et d'Areva sont mobilisées pour réaliser au plus tôt les essais complémentaires et apporter à l'autorité toutes les informations.
Selon l'association l'Observatoire du nucléaire, ces résultats étaient connus depuis au moins 2011. Pour les militants anti-nucléaires, ce rapport sonne la fin de l'EPR.
Ça remet en question la sécurité de l'EPR, qui est un élément essentiel, majeur, supplémentaire par rapport aux générations précédentes. Et là, Areva s'est complètement trompé sur la sécurité du projet. Donc pour nous, le projet est une calamité, il faut absolument que ça s'arrête.
France Culture, Planète Terre, Sylvain Kahn.
Alors, à travers cet extrait d'un reportage qui a été diffusé sur BFM TV le 18 avril 2015, s'agissant donc du chantier du fameux EPR français qui prend tant de retard et dont les coûts explosent, on a bien, de manière en tous les cas très archétypale, le paysage qui fixe les différents acteurs. Il y a donc les industriels qui sont plutôt dans une certaine culture du secret ou de la discrétion, l'autorité de sûreté nucléaire, donc l'État. Alors évidemment, on a toujours du mal à savoir où est l'État. Est-ce que l'État est plutôt du côté des grands opérateurs, puisque EDF et Areva, c'est quand même deux entreprises où l'État est évidemment en première ligne. Et puis enfin, on a la société civile, et la plupart du temps, on entend des acteurs qui sont des acteurs qui s'opposent au nucléaire. Alors, est-ce que cette manière de présenter les choses est-ce que vous pensez qu'elle permet de comprendre la complexité de la réalité du jeu d'acteurs tel que vous, sur vos terrains, en tant que chercheur, vous essayez de la mettre à jour, Romain Garcier?
Il est exact que cette manière de présenter les choses, c'est-à-dire en identifiant un certain nombre de grands acteurs ou de collectifs d'acteurs, c'est une première entrée dans la complexité de l'objet nucléaire. On se rend compte quand même que les divisions sont parfois pas aussi tranchées que ça entre ces différents acteurs. Le rôle de l'ASN, par exemple, est un rôle très complexe. Pourquoi
l'autorité, l'agence donc sur l'autorité
de sûreté nucléaire. Pourquoi? Parce que quelle est l'histoire de l'ASN? L'ASN, c'était antérieurement un service du ministère de l'Industrie qui a été érigé en autorité indépendante en 2006. Et donc l'ASN ne rend de compte à personne, d'une certaine manière. Elle ne prend pas ses ordres au ministère de l'Industrie. Et donc l'ASN a eu à cœur, justement, de à la fois augmenter beaucoup le niveau d'exigence qu'on peut attendre des opérateurs industriels, tout en ne le montant pas à un tel niveau qu'elle mette en péril la survie de l'industrie. Et quand on discute avec les responsables de l'ASN, ce caractère paradoxal du rôle de l'ASN, il est tout à fait compris et quelque part assumé. Mais l'idée qui a été celle poursuivie par le dirigeant historique de l'ASN, Monsieur Lacoste et ses successeurs, c'est précisément de dire plus nous mettrons d'exigences envers les opérateurs industriels, plus l'industrie aura une chance de survie à long terme.
Comment expliquer, puisque vous parlez des opérateurs industriels, qu'au fur et à mesure que les décennies passent, alors que, vous le disiez tout à l'heure, Théva Meyer, le nombre de réacteurs en construction se développe, c'est peut-être pas exponentiel comme on l'a cru à un moment donné, d'ailleurs, comment expliquez-vous que ce nombre de constructeurs et d'opérateurs se concentre de plus en plus?
Il y a, je crois, dans cette industrie, un problème qui est que c'est une industrie qui a connu une série de cycles. Après l'accident de Three Mile Island en 1979 aux États-Unis, les commandes de réacteurs nucléaires se sont arrêtées, pour ainsi dire, notamment en Occident, pour le dire un petit peu vite. Donc on est sur une industrie qui est cyclique, parce que dès qu'il y a un accident, bien évidemment, il y a un contre-coup sur les commandes industrielles. Et d'autre part, on est sur des infrastructures industrielles qui ont des très longues durées de vie. Puisque aujourd'hui, une centrale nucléaire, elle est conçue pour vivre, pour fonctionner pendant 40, 50, 60 ans peut-être. Et donc, on est là, pas du tout sur un marché très vivant, j'allais dire. Donc, de fait, il y a des formes de concentration d'acteurs qui se mettent en place, tout simplement parce que le marché, il n'est pas inextensible.
C'est la meilleure.
Alors, je ne sais pas si on peut parler de concentration. Alors, je vais m'expliquer. À l'échelle globale, déjà, on a des pays qui historiquement ont une industrie nucléaire qui exportait. donc la France, les États-Unis, moins connu la Suède qui a exporté, l'Allemagne qui a exporté aussi, et on a dernièrement des pays qui sont extrêmement agressifs sur le marché, et je pense particulièrement à la Corée du Sud, qui a entre autres remporté le marché des nouveaux réacteurs en aux Émirats Arabes Unis, hein. Sur la shortlist, il y avait le réacteur français, mais c'est un réacteur coréen qui a remporté la victoire. Donc on a ces, entre guillemets, nouveaux arrivants, qui sont pas si nouveaux que ça, parce qu'ils ont développé un parc électronucléaire chez eux, mais en tout cas qui sont beaucoup plus agressifs sur le marché international. Et le deuxième point, là, en descendant l'échelle, au niveau français, on a tendance à voir surtout Areva. En réalité, on a une multitude de petites entreprises qui travaillent dans la filière électronucléaire. C'est difficile de les compter, mais en tout cas, on en a entre 400 et 500. On a 400 et 500 entreprises, certaines des très petites entreprises, des ETI et des TPI, qui sont actives dans cette filière électronucléaire et qui sont disséminées sur l'ensemble du territoire français. J'en ai relevé, 64 départements ont une entreprise dont le cœur de métier, c'est-à-dire dont plus de 50% du chiffre d'affaires est lié à l'énergie atomique. Et on a comme ça des régions, le plus typique c'est la Bourgogne, qui, même s'ils sont dépourvus de centrales nucléaires, alors on a un centre du CEA à Valduc en Bourgogne, mais il n'y a pas de centrale nucléaire en Bourgogne, pourtant c'est une région au cœur du système productif de l'énergie atomique en France.
Est-ce à dire que il y a finalement aujourd'hui des... appelons ça des intérêts, pour aller vite, hein, qui peuvent venir percuter le débat ou la réflexion sur l'opportunité et la dangerosité ou le caractère risqué du nucléaire. Parce que si vous dites, vous avez bien dit 64 départements, alors j'entends bien que c'est à chaque fois des entreprises soit de petite taille, soit moyenne, mais donc ça veut dire que finalement, un peu partout sur le territoire français, pour prendre cet exemple, il y a des entreprises, donc des salariés, donc des familles, des foyers qui sont d'une manière ou d'une autre intéressés à la bonne marche de la filière nucléaire. Alors je ne sais pas si on peut généraliser, extrapoler à partir de ce que vous venez de dire sur la France à d'autres pays. Mais donc du coup, est-ce que ça ne vient pas, disons, obscurcir le débat légitime qu'il doit y avoir sur est-ce une bonne chose de tabler sur le nucléaire pour lutter contre le changement climatique ou pour se fournir en énergie.
Je dirais, au contraire, il faut, à mon sens, il faut partir d'un principe qui n'est pas un gros mot, qui est de dire que tout système énergétique est le résultat d'un rapport de force entre intérêts contradictoires ou pas. Que ce soit les systèmes énergétiques allemands, la sortie du nucléaire en Allemagne ou la continuation du nucléaire en France, c'est le résultat d'un rapport de force. Un rapport de force géopolitique, de géopolitique interne, mais toujours un rapport de force. Alors absolument, dans d'autres pays, si on regarde le cas de l'Allemagne, c'est très très intéressant. En 2011, au moment de la sortie deuxième sortie nucléaire ou troisième sortie nucléaire, en fonction de la chronologie qu'on prend, en Allemagne, l'industrie électronucléaire a accepté la sortie sans se défendre. Et au contraire, a décidé que, pour survivre, l'industrie électronucléaire devait tabler sur les technologies de l'après-nucléaire, donc du retraitement, mais aussi de la gestion des déchets.
Romain Garcet, sur ce point.
Oui, sur le point, je suis tout à fait du même avis que Téva Meyer ici. Je pense que la dimension emploi, activité économique doit faire partie de l'équation sur la réflexion sur les futurs énergétiques. On ne peut pas s'abstraire, encore une fois, les énergies, ce sont des objets matériels. C'est pas simplement des choix politiques comme ça imposés. Sur la question justement des conséquences, notamment de la fermeture industrielle, on a quelques exemples qui sont très intéressants en France, notamment le cas de Superphénix. Quand Superphénix a été fermé en 1997, dans un contexte politique et j'allais dire psychologique, émotionnel extrêmement dur, notamment au niveau des territoires qui accueillaient la centrale, qui est à environ une heure de Lyon, eh bien, on avait vraiment un discours d'apocalypse, c'est-à-dire en disant c'est la mort de la région, on va perdre tous nos emplois, tous les emplois induits, etc. Et on a fait un travail de terrain, donc de recherche avec mes étudiants, pour essayer de déterminer la réalité de ces effets induits quelques années ensuite. Et on s'aperçoit en fait qu'il y a eu effectivement une diminution de l'emploi salarié local, mais qu'en définitive, il n'y a pas eu par exemple d'exode démographique. Pourquoi ? Parce que Superphénix se trouvant à environ une heure de Lyon, la zone entière a basculé dans une forme d'économie résidentielle, qui a donc compensé, d'un point de vue financier, la perte que représentait la perte de la centrale. Alors, pas nécessairement d'un point de vue fiscal pour les communes, mais en tout cas pour les ménages, il n'y a pas eu de déperdition majeure dans la zone.
Ça serait le cas également pour la fermeture de Fessenheim ?
Ce qui pose la question, pour reprendre sur ce qui était dit tout à l'heure, ce qui pose la question de l'insertion originelle des centrales nucléaires et du développement qui s'est fait autour d'elles. Si une centrale nucléaire, comme on peut le voir, ou une activité nucléaire, comme on peut le voir par exemple dans certains cas aux États-Unis où une mine a fermé, ou alors là c'est la dévastation complète, ça devient des villes fantômes. En France, si on regarde la répartition des centrales nucléaires, il y a fort à parier que la localisation de Fessenheim, qui est quand même dans une zone riche, peuplée, traversée de flux économiques, traversée de flux démographiques importants, ne soit pas la zone la plus à risque d'une catastrophe économique.
Est-ce que vous diriez, pour autant, puisque vous parlez de risque, que cette géographie, là je change à nouveau d'échelle, cette géographie mondiale qu'on a essayé d'évoquer dans la première partie de l'émission, peut être comprise comme, finalement, permettant de voir une géographie des risques. Parce que, bien entendu, vous le rappeliez à l'instant, on associe souvent le nucléaire au risque. Lorsqu'il y a une catastrophe, on l'a vu avec Fukushima, on sent bien qu'il y a une diffusion finalement assez grande de l'onde de choc. Donc est-ce que pour vous, mettre à jour les routes, entre guillemets, des objets nucléaires, c'est aussi essayer de tracer une cartographie, un planisphère des endroits ou des zones à risque ?
C'est pas meilleur. Moi, je prendrais peut-être aussi trois points. D'un point de vue de cette géographie globale, je vois trois risques qui me semblent intéressants. Le premier, c'est le risque d'un point de vue bêtement sanitaire. Donc, effectivement, le risque danger de... par exemple, on a un cas d'étude qui est le naufrage d'un bateau en 1984, le Mont-Louis, qui transportait de l'uranium de retraitement français pour être réenrichi en Russie, qui a fait naufrage au large d'Ostende. Donc là, on a une géographie, on trace une géographie des risques parce que on a des transports de matière à risque. Après, il y a un autre point qui est le risque de rupture d'approvisionnement. Alors là, ça c'est le risque vu des pays importateurs. Et ce risque de rupture d'approvisionnement, il trace la géographie du nucléaire. C'est-à-dire que les pays, la France par exemple, ayant peur d'avoir une rupture d'approvisionnement en uranium, va modifier, changer ses pays d'importation, voire même chercher de nouveaux pays. Retracer une géographie, par exemple des gisements d'uranium. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, on a de très très fortes recherches en Suède et en Finlande pour ouvrir des mines d'uranium dans ces deux pays, parce que ces deux pays-là sont considérés comme moins à risque. Et le troisième point, mais on l'a déjà évoqué, c'est le risque de prolifération, qui forme aussi une nouvelle géographie du nucléaire. Moi, je prendrais la thématique du risque sur ces trois ensembles-là et pas uniquement le risque sanitaire, entre guillemets, de le passage des matières fissiles.
Et pour vous, Romain Garcier ?
Je suis tout à fait sur le même le point de vue. Je crois qu'il est très difficile aujourd'hui de... Le nucléaire convoque tellement d'imaginaires, de problématiques politiques, etc., que... Il est très difficile de se faire une idée claire et j'allais dire bornée de cet objet qui est lui-même en quelque sorte un peu proliférant. Donc quand on parle des risques associés au nucléaire, effectivement ces risques ils sont extrêmement variés et ils sont d'autant plus variés que la nature même de ce qui est nucléaire n'est jamais fixée. Dans son excellent ouvrage, l'historienne Gabrielle Hecht, retrace par exemple ce qui s'est passé avec l'uranium. Et elle montre par exemple que l'uranium qui était extrait des mines en France, donc les mines du Limousin, était considéré comme un matériau à risque, donc il y avait un suivi des travailleurs, alors que l'uranium qui était extrait au Gabon ou à Madagascar ne faisait pas l'objet du même type de préoccupation. Donc en fait, quand on parle des risques du nucléaire, le problème, c'est qu'il faut aussi définir exactement ce qu'est le nucléaire.
Eh bien, c'est une invitation à envisager de faire une seconde émission sur ce sujet. En tous les cas, celle-ci arrive à son terme. Romain Garcier et Théma Meyer, je vous remercie beaucoup pour vos précieux éclairages. Je signale à tous nos auditeurs que plusieurs des articles de Romain Garcier et de Théma Meyer sont accessibles en ligne à partir du site de France Culture, depuis la page de l'émission Planète Terre, qui s'appelait donc aujourd'hui « Nucléaire entre territoires connus et routes cachées ». Luc Jean Reynaud, Catherine Madur, Jacques Hubert et la documentation sonore nous ont accompagnés en régie pour la préparation de cette émission. Cette émission, comme les précédentes, est en ligne 1000 jours et en podcast 1 an. Profitez-en. Vous pouvez la suivre et la commenter en postant vos commentaires sur la page planétaire du site web de France Culture, mais aussi sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Merci à tous de votre attention et de votre fidélité. La semaine spéciale sur le nucléaire se poursuit tous les jours de 14h à 15h dans les émissions de Culture Science. Demain à 14h, ce sera donc la marche des sciences d'Aurélie Luneau comme chaque jeudi. Et pour le moment, sur France Culture, place aux bonnes feuilles, le rendez-vous littéraire quotidien qui sera suivi à 15h de Culture Musique de Mathieu Garrigou-Lagrange.